franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. C'est donc la dernière de la saison et de la série consacrée à la Meurthe-et-Moselle. Et je vous conduis tout d'abord à Pagnet, derrière Barines, drôle de nom pour cette commune proche de Toul et qui ne compte que 600 habitants, mais un haut lieu du rock depuis 1969, il s'appelle chez Paulette. Paulette, c'est Paulette Marshall qui, avec son mari, avait consacré sa maison à des soirées-concerts, un esprit dancing à l'époque, et qui va basculer vers le rock pour en faire un des lieux les plus prisés du département pour les amateurs de rock, de metal, heavy ou pas, de musique punk et de découvertes régionales. Julien, petit-fils de Paulette, a pris le relais après que la salle mythique, comme l'on dit, ait accueilli durant trois décennies des Calvin Russell, Jean-Louis Aubert ou Candy Heat. Rien ne change sinon la déco, et récemment même le guitariste de Motorhead était sur la scène du pub rock chez Paulette. Motorhead quand même sur la scène de chez Paulette à Pagnet, derrière Barines, c'est pas n'importe quoi. La programmation est permanente, les décibels et la bière s'y écoulent régulièrement, avec modération évidemment, il faut toujours l'ajouter. Samedi, ce sera au tour du punk, donc demain, du punk rock de Diego Palavas et de Guérilla Poubelle de réveiller le village. PaulettePubRock.com pour l'adresse. Derniers invités de la saison 2016-2017, Jean-Luc Clémenceau, fondateur de l'association Entraide à Toul, tout près de chez Paulette, dont vous pouvez lire une présentation du travail phénoménal dans les pages numériques de la vie. Et puis ensuite, Nathalie Hott, initiatrice de la Cantoche, futur restaurant associatif et citoyen à Nancy.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Luc Clémenceau, bonjour.
Bonjour.
Merci à Jean-Pierre qui nous a envoyé un courrier pour vous dénoncer, puisque vous avez organisé avec votre association Entraide à Toul un système de récupération et d'échange de prothèses. Il s'agit de lames de course pour des enfants et des adolescents afin de leur permettre de sentir la joie de courir, si banal pour nous. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes accidentés, un accident de scooter et la perte d'un membre, par exemple.
Oui, alors là, dans la population des jeunes, pour les 6-16 ans, on a strictement, depuis le début du projet, un tiers d'enfants dont c'est une malformation de naissance,
oui,
qui a pu être reprise chirurgicalement, un tiers pour des accidents divers, souvent domestiques aussi. Hein.
Ah oui.
Accidents domestiques, ça arrive aussi avec les tondeuses ou des choses comme ça, motoculteurs. Et puis un tiers de maladies, malheureusement.
Se lancer dans cette chaîne de solidarité, la motivation vient d'où ?
Alors, avant d'avoir été orthoprothésiste, j'étais ergothérapeute, donc une discipline de rééducation qui englobe un petit peu toute la personne dans le process de rééducation. On tape vraiment dans le concret, quoi.
Oui.
Et en devenant prothésiste, je deviens spécialisé dans la fabrication de prothèses, et j'étais un peu frustré de pas accompagner mes patients un peu plus loin, quelquefois. Donc la première motivation, elle est là-dedans. Après, la deuxième motivation, il y a 4 ans, on a eu 3 petits loulous qui voulaient tous essayer des lames de course pour courir.
Mmh.
Et ça nous était jamais arrivé à l'IRR. Et donc, j'ai bien vu que, en fait, que ce serait compliqué pour des gamins pour qui il faut changer le matériel quasiment tous les ans, alors qu'une prothèse de course, ça coûte entre 6 000 et 20 000 euros.
Oui. Et alors, comme le disait Jean-Pierre, l'avantage, c'est qu'on peut échanger la prothèse. Lorsque l'enfant grandit, la prothèse peut profiter à un autre enfant.
Alors oui, c'est le principe de l'action. En fait, les lames de course, donc c'est une lame, c'est un ressort,
oui,
en carbone, elles sont calibrées à peu près tous les 5 kilos. Et elles ne dépendent pas ni de la pointure, ni du côté de l'amputation.
Oui.
Donc en fait, ça devient un objet seulement indexé par le poids. Et donc, c'était très facile de créer une banque d'échange, en fait.
Mais il y a un coût d'investissement pour produire ces lames, malgré tout.
Alors oui, très très important. Hein.
Mmh.
Alors pour les lames pédiatriques, donc pour les jeunes, il y a un seul fabricant dans le monde, qui est en Islande, la société Osur. Et en fait, ils ont eu énormément de sympathie pour le projet dès le départ. Et ils nous ont fait vraiment, enfin, je ne sais pas si on peut parler de remise, mais enfin, un prix vraiment exceptionnel sur les lames. Et comme c'est un système de prêt, on n'est pas assujetti à la même TVA. Et donc, du coup, on touche le matériel, au bout du compte, quasiment à moitié prix, quoi.
Ouais. Est-ce que les confrères prothésistes vous ont suivi ?
Alors, c'était la condition aussi pour que le projet fonctionne. Et donc, il fallait que chaque prothésiste qui appareille chaque enfant dans chaque endroit de la France se prête au jeu. Et moi, j'ai demandé à tous ces prothésistes de s'engager à monter le matériel gratuitement en échange de la gratuité de ce matériel.
Et alors, votre association, Jean-Luc, Entraide, est en train de réaliser un livret d'éducation thérapeutique.
Alors, ça, c'est un projet pour l'instant. On a commencé l'investigation et moi-même, je me forme un peu pour ça. Livret d'éducation thérapeutique, parce qu'on s'est aperçu en allant dans des familles qu'il y avait un milliard de questions quand on se retrouve avec un petit bout soit qui a besoin d'une amputation, soit qui a une malformation de naissance, et des parents qui ne savent pas où ils vont ni dans quoi ils sont. Alors déjà, relier un petit peu toute la chaîne, les parents, les thérapeutes, les prothésistes, l'entourage scolaire, savoir comment le matériel fonctionne, comment on s'en sert, pourquoi il est monté comme ça. Mmh. Allez, c'est autant pour nous que pour eux, parce qu'on a besoin nous-mêmes de découvrir dans quoi tout cela évolue. Moi-même, thérapeute depuis 30 ans, je comprends pas tout. Ouais. Donc c'est l'occasion de tout comprendre et de le transmettre aux parents pour qu'ils le transmettent aussi aux autres.
Mmh. Et on a vu les jeux handisport qui changeaient le regard et les clubs sportifs également.
Énorme.
Parce que chez vous, maintenant, ça y est, il y a des jeunes athlètes qui, grâce aux prothèses, font des performances fabuleuses.
Ça, c'est un truc de fou. On n'avait pas anticipé là-dessus en montant ce projet. On a bien clamé que c'était totalement en marge du handisport, que c'était pour courir et sans condition d'inscription à un club. Bon, il se trouve que la moitié au moins des gamins sont inscrits à des clubs et beaucoup ont fait de la compète. En fait, on est arrivé au bon moment aussi, hein, on a eu de la chance.
Mais c'est grâce à vous, enfin, le bon moment, mais il faut aussi la bonne personne.
Alors, bon, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement. Bon, moi, je suis un petit peu en fin de carrière. Dans 2 ans et demi, 3 ans, je vais pouvoir prendre ma retraite. Donc, je me suis dégagé du temps par rapport à mon travail, hein. Je travaille 30-35% de temps en moins pour l'association. Bon, c'est une perte financière. Et en même temps, c'est vraiment super chouette de finir son trajet professionnel là-dessus, quoi.
Ah bah ça, je comprends.
Donc c'est intéressant. Puis quand on a les familles, les enfants ou les parents ou les deux qui nous donnent des retours d'impression, c'est trop chouette, quoi.
Ouais. La page Facebook, c'est entraide.unelamepourcourir. Vous allez avoir le lien avec cette page et avec l'association présidée par Jean-Luc Clémenceau. Merci Jean-Luc.
Merci beaucoup.
Avant d'appeler Nathalie Hoth, nous saluons encore un exemple de ténacité collective et citoyenne. Cela se passe à Nancy, dans un quartier qui abrite une ancienne école annexe de la MJC des Trois Maisons, c'est son nom, et un jardin partagé de 4000 mètres carrés. La municipalité prévoit un projet immobilier à cet endroit qui priverait la MJC d'un ensemble d'activités qui se déroulent dans cette annexe et puis qui réduirait un espace de culture ouvert au cœur de ce quartier très populaire. En réaction à ce projet, un collectif dit des Trois Maisons se crée sous l'impulsion d'usagers de la MJC et d'habitants du quartier. Il y a une page Facebook qui vous tient au courant des négociations avec la mairie sous le titre de nos Trois Maisons. Vous avez un lien à nos pages d'émission. A priori, le collectif a donné suffisamment de voix pour entrer en négociation avec les élus. Et au-delà des effets sur les activités sportives et artistiques proposées aux adhérents de la MJC, c'est toute une démographie très dense dans cette partie de ce nord-est nancéen qui se verrait étouffée par une nouvelle zone de logement. Or, selon le site manifest.info, Nancy pourrait accueillir en d'autres endroits un tel projet immobilier, tout en préservant des espaces naturels et des espaces de partage culturel existants comme celui-ci. Entre deux assemblées générales, le collectif organise des apéros participatifs tous les mercredis, ainsi que des séances de projection, de documentaires et des expositions. Le site, c'est nos3maisons.org. Quant aux médias en ligne que j'ai cités, allez sur le site, alors ça s'écrit manif-est.com et il distille des informations alternatives sur l'ensemble du Grand Est. Voilà, et c'est toujours passionnant. On reste à Nancy pour rejoindre notre dernière invitée de la saison, c'est Nathalie Hoth. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Nathalie, c'est dans votre tête qu'a germé le projet de la cantoche ?
Oui, dans ma tête et dans la tête d'une autre personne avec moi. C'était déjà en 2015, à la veille de la COP21, en fait. On s'était rencontrés dans notre engagement avec Alternativa. Et voilà, du coup, l'idée de la cantoche a tout doucement germé et a pris son temps. Voilà.
Le projet de la cantoche, avant de le détailler, correspondait à un besoin que vous avez évalué auprès d'une population ou plutôt d'abord à votre souhait de construction?
Je dirais un peu des deux. Je pense d'abord de notre souhait, nous, de vraiment de porter une initiative concrète, collective et festive sur le réchauffement climatique et surtout sur l'alimentation. Et après, quand on regarde un peu le paysage sur Nancy, effectivement, il manque d'un lieu comme ça, un lieu qui propose ce type d'alimentation et aussi un lieu qui promeut un peu ces alternatives.
Alors la cantoche sera une cantine populaire. Ça signifie quoi, populaire? Ouverte à tous, à toutes, peu importe les moyens?
Voilà, peu importe les moyens. L'idée, c'est d'avoir de la cuisine simple, goûteuse. Et quand on dit cantine, c'était voilà, comme un peu les cantines populaires d'antan, où les travailleurs, les gens du coin, les étudiants puissent se retrouver, y manger, un peu mélanger les différents publics. Et aussi, on a envie vraiment de ce type d'alimentation qui est souvent pour un type de personnes. Là, on aimerait vraiment la populariser et la rendre accessible, et notamment grâce à une fourchette de prix, avec un prix classique, un peu comme les prix classiques d'un restaurant classique,
ouais.
Un prix de solidarité, on va dire, il faut qu'on voie un peu les mots, mais voilà, pour proche du coudre bien, et un prix de soutien pour soutenir nos activités et le fait qu'on fasse aussi des tarifs un peu plus solidaires.
Ouais, j'aime bien, ça me fait toujours sourire quand on parle de restauration, on dit fourchette de prix, ça évite d'avoir le couteau sous la gorge, quoi. C'est une alimentation bonne pour le climat, issue de quels producteurs?
Issue de producteurs locaux, d'agriculture paysanne, d'une agriculture biologique, locale au maximum en fait. L'idée, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'on a chez nous comme type de produit, les mettre en valeur et d'aller chercher peut-être, voilà, regarder ce qu'on n'a pas et ce qu'on a absolument besoin, de le chercher chaque fois, peut-être dans la région d'à côté, puis en France, puis ailleurs. Voilà, je pense qu'on ne va pas pouvoir se passer tout de suite du café, mais on va essayer de proposer aussi les alternatives. Mais en tout cas, notre café sera aussi équitable. Pour nous, c'est aussi important que, voilà, qu'on parle d'équitable, que ce soit ailleurs, mais que ce soit aussi équitable avec les paysans à côté de chez nous aussi, quoi.
Et la cantoche, ce sera un lieu de restauration, mais aussi un lieu de rencontre et un lieu ouvert aux arts et aux cultures.
Oui. Ce sera aussi un lieu qui veut faire vivre un peu son quartier, où on va proposer des événements, des ateliers de savoir-faire. On pourra aussi créer du lien, notamment aussi en cuisine aussi, parce qu'on pense qu'en cuisine ensemble, on peut aussi créer pas mal de liens et apprendre beaucoup.
Mais ça veut dire, la cantoche va être gérée sous quel statut et avec qui?
Pour l'instant, ça va, on va se créer en association. Et ça va se gérer collectivement à plusieurs personnes, donc avec des bénévoles. Et on espère par la suite aussi embaucher des salariés, mais toujours avec une gestion horizontale, une gouvernance horizontale.
Et aujourd'hui, vous avez testé donc il y a peu de temps la cantoche en version éphémère. Ça a bien marché. On peut trouver des photos d'ailleurs sur votre page Facebook à la cantoche 54. Et vous cherchez un local?
Oui, on cherche un local pour essayer d'ouvrir idéalement en début 2018, on aimerait bien. Idéalement au centre-ville et avec une capacité minimum de 30 personnes. Donc on lance un appel aux personnes qui ont des pistes, aux personnes peut-être qui ont ce local-là et qui ont envie de faire vivre un beau projet sur Nancy.
Alors, chers amis, si vous avez un local à proposer à la cantoche, n'hésitez pas. Ouverture prévue et projetée mi-2018. La cantoche 54 pour la page Facebook, où vous allez trouver le contact direct avec les initiateurs du projet et en l'occurrence avec Nathalie. Merci Nathalie.
Merci beaucoup.
Je vous annonce un dernier rendez-vous avant l'été, le départ dans les quartiers d'été des Carnets, la 7e édition des Assises nationales de la biodiversité qui va se tenir pour la 7e édition. Ah oui, il faut prendre des vacances, mon gars. C'est la semaine prochaine, du 5 au 7 juillet, Ajaccio, avec les bienfaits sur la qualité de vie, la diminution des impacts du changement climatique en ville, la biodiversité à l'origine des bénéfices environnementaux considérables. La semaine prochaine, Ajaccio, 5 au 7 juillet. Merci à Juliette Gou qui a réalisé les carnets cette année, qui se destine à d'autres missions à la rentrée. Bon vent, Juliette. Merci beaucoup. Merci à Joël Levert qui a donné du corps au carnet et qui continue, elle, à la rentrée. Il y a des courageux. Merci aux techniciennes, c'est vache ce que je dis, qui ont mis les carnets en ondes, comme Jean-Noël Vélan. Les carnets reviennent le 28 août et puis dès la semaine prochaine, le débat de midi présenté par Dorothée Barba pendant le mois de juillet. Je prendrai la suite au mois d'août. J'aurai plaisir à vous retrouver. Merci beaucoup Nicolas Stouff, l'assisté Yann Pailleret à l'Est Saint-Christophe, la Meurthe-et-Moselle, le jeudi 1000 euros.